SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 3 septembre. Après s'être abattu violemment sur les Bahamas, l'ouragan Dorian poursuit sa route vers la Floride. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le gouvernement vient d'officialiser la fermeture du centre de rétention de Manus Island. Et en Australie, le gouvernement veut durcir les peines encourues par les pédophiles. Et on commence donc ce journal en prenant la direction des Bahamas. L'archipel a été très violemment frappé par l'ouragan Dorian, coupant une grande partie des systèmes de communication et causant la mort d'au moins 5 personnes. On fait le point sur la situation avec Matthew Cochrane, le porte-parole de la Fédération internationale de la Croix-Rouge.
Pour l'instant, il n'est pas possible de joindre les zones les plus affectées et qui sont toujours sous les effets de Dorian. Nous savons que l'ouragan a frappé très durement les îles Abaco et ensuite poursuivi sa route sur l'île de Grand Bahama. Nous savons par certaines de nos équipes sur place qui ont pu sortir que l'impact a été très sévère. Mais le réseau téléphonique est à terre. Une fois l'ouragan passé, nous savons que les besoins humanitaires des rescapés seront multiples. D'abord, il faudrait mettre à l'abri les sinistrés. Nous estimons que près de 13 000 maisons ont été endommagées ou détruites par le cyclone. Les puits ont été inondés par de l'eau salée. Apporter de l'eau potable sera donc l'une de nos priorités.
Et ces propos ont été recueillis par Stéphanie Schuller pour RFI. Mais pour Dorian, ce n'est pas fini, puisqu'après les Bahamas, c'est maintenant la Floride qui se prépare à l'arrivée de cet ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Et d'après le Centre national américain de prévention des ouragans, Dorian doit arriver sur la côte est américaine pour demain, mercredi. En Floride, deux aéroports ont déjà prévu de fermer alors qu'on s'attend à des vents soufflant à plus de 250 km/h. Et le sénateur de Floride, Rick Scott, appelle lui la population à évacuer. On l'écoute.
If you look at a lot of the deaths, they're caused by the water. It's either that we get the flooding or we get the storm surge. What they're saying right now is we have a potential in many parts of Florida where we're going to have 4 to 7 feet.
Allez, on traverse l'Atlantique pour se rendre en Grande-Bretagne où la semaine s'annonce très agitée. Le Parlement fait sa rentrée, mais pour seulement une petite semaine, puisqu'il sera ensuite suspendu, comme l'a décidé la semaine dernière le Premier ministre Boris Johnson. L'opposition va en profiter pour tenter de faire voter une motion qui empêcherait un Brexit sans accord. Les explications d'Anissa El-Jabri pour RFI.
Et cette déclaration, on avait par moments du mal à l'entendre tant les manifestants contre la suspension du Parlement s'époumonnaient, on les entendait crier « Stop the coup, comprendre, arrêter ce qui est pour eux un coup d'État ». Boris Johnson qui en fait a lancé une dernière mise en garde aux députés, voter une loi bloquant une sortie sans accord, c'est l'affaiblir, lui couper les jambes, c'est son expression face aux Européens. Seule la menace d'une sortie sèche, c'est son pari, peut faire plier les 27. Bref, rien de nouveau, mais une manière de prendre encore une fois l'opinion à témoin. Quant aux rebelles conservateurs, ceux-là subissent une intense pression du pouvoir, menace d'exclusion du parti s'ils ne votent pas contre le texte de l'opposition. Selon ce texte, justement, le gouvernement aurait jusqu'au 19 octobre pour avoir un accord, sinon obligation de demander un nouveau report du Brexit pour le 31 janvier. « Je veux une sortie le 31 octobre », a encore martelé Boris Johnson, le Premier ministre qui dit ne pas vouloir d'élection générale, mais la menace plane. Anissa El-Jabri, Londres, RFI.
Et à Hong Kong, c'est aujourd'hui la rentrée des classes, mais après des semaines de manifestations entre opposants pro-démocratie et le gouvernement qui est lui inféodé à Pékin, la crise pourrait aussi gagner les amphithéâtres. Des milliers d'étudiants ont en tout cas appelé au boycott des cours, car ils estiment qu'il est plus important de continuer à manifester sur place. Le reportage de Stéphane Lagarde, l'envoyé spécial de RFI.
Un campus en noir et jaune, t-shirt de la contestation et casque de chantier, le ciel d'orage n'aura pas dissuadé près de 30 000 étudiants, selon les organisateurs, de participer à ce rassemblement, point de départ d'une campagne de boycott de la rentrée, destinée à durer 2 semaines. L'université chinoise de Hong Kong n'a pas été choisie au hasard, c'est l'une des 3 plus cotées de la région administrative spéciale. Étudiant en optométrie, Owen, 18 ans, ne sait pas encore s'il séchera les cours pour la rentrée ce mardi. même s'il dit comprendre le mouvement.
C'est une bonne façon de montrer au gouvernement qu'il a tort. Ce sera long avant qu'on obtienne quelque chose.
Un combat de longue haleine qui demande de la détermination après l'annulation de la traditionnelle cérémonie de rentrée par le vice-président de l'université. Les étudiants ont décidé de prendre en main l'événement. Sur l'esplanade devant la bibliothèque, une scène accueille les représentants des associations étudiantes. Chéri, 20 ans, prépare un diplôme de comptabilité.
S'il y a des activités de prévues, j'irai plutôt que d'assister au cours parce que c'est sans effort. Vous n'avez pas à payer un prix élevé pour ce boycott. C'est moins dangereux que d'aller manifester. C'est une bonne manière pour les étudiants de montrer qu'ils soutiennent le mouvement, donc c'est utile de participer.
Boycotter les cours, moins dangereux que de manifester, n'amenez pas les manifestations de rue sur le campus, a mis en garde le président de l'université municipale de Hong Kong devant les nouveaux étudiants. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
Et c'est désormais officiel, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a annoncé la fermeture du centre controversé de rétention de Manus Island. Les derniers réfugiés et demandeurs d'asile qui sont détenus pour le compte de l'Australie vont être transférés dans la capitale, Port Moresby. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir, d'après l'écrivain irano-kurde Barouz Boukhani, qui est lui-même détenu.
Non, malheureusement, nous sommes toujours coincés dans ce pays, alors que nous n'y avons aucun avenir. Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle vie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Même si nous le voulions, jamais on ne pourra devenir citoyen de ce pays. Nous vivons donc toujours dans les limbes, sans savoir pour combien de temps ils nous retiendront ici. Nous sommes encore 300 personnes, sans aucune perspective. Enfermer des gens pendant 6 ans les abîme physiquement et mentalement. Jamais nous ne devons oublier que 7 personnes sont mortes sur cette île. Des organisations non gouvernementales réputées, telles Amnesty International et Human Rights Watch, ont publié des rapports à maintes reprises et elles ont clairement constaté que ce que le gouvernement australien nous a fait subir relève de la torture et d'une violation des droits humains. Nous avons quitté nos pays pour fuir la guerre, la discrimination ou encore la dictature religieuse. Nous avons choisi d'aller vers l'Australie, une démocratie libérale. Mais malheureusement, le gouvernement australien nous a volé nos vies durant 6 années.
Et c'était donc une interview réalisée par Heike Schmidt pour RFI. En Australie maintenant, le gouvernement prépare un projet de loi destiné à durcir les peines encourues par les pédophiles, avec notamment des peines de prison à perpétuité pour les cas les plus graves. Parmi les nouvelles mesures, il est également envisagé de restreindre les possibilités de libération sous caution et de liberté conditionnelle, mais aussi d'allonger les peines de prison pour ce type de crime. Cette nouvelle législation, qui doit être votée lors de la reprise des travaux parlementaires la semaine prochaine, ciblera notamment la pédopornographie et les crimes pédophiles commis à l'étranger. D'après le procureur général Christian Porter, qui s'exprimait sur News Limited, l'an dernier, un tiers des pédophiles n'ont pas passé un seul jour, le moindre jour, en prison. Et puis, on se dirige peut-être vers une refonte totale de la loi sur la discrimination envers les personnes handicapées. C'est en tout cas la demande que formule l'organisation People with Disability, alors que le dernier rapport de l'Institut australien pour le bien-être et la santé indique que la Commission des droits de l'homme a reçu, entre 2017 et 2018, plus de plaintes pour discrimination au handicap que pour toute autre forme de discrimination. Dans le détail, 30% des plaintes déposées concernaient donc une discrimination au handicap, 27% pour des faits de discrimination sexuelle et 14% pour de la discrimination raciale. La loi contre la discrimination envers les personnes handicapées doit donc être revue de fond en comble, d'après Jeff Smith, le président de People with Disability.
There are a number of things we need to do in that space. We need to strengthen enforcement. We need to facilitate the making of complaints by people with disability so they have effective access to justice. We need to broaden out the remit so it tackles issues such as systemic discrimination.
Et puis en Australie toujours, les évêques catholiques ont décidé de partir en croisade contre les géants d'Internet à qui il reproche de trop peu faire pour lutter contre les fake news et la publication de contenus haineux et offensants. C'est la conférence des évêques catholiques australiens qui s'est exprimée. Elle souhaite plus précisément qu'il y ait davantage de régulation, mais aussi une plus grande coordination entre les gouvernements à travers le monde pour lutter contre les fausses informations. Il souhaite également que les hébergeurs de ces contenus, qu'on connaît tous, hein, il s'agit de Google, Facebook ou encore Twitter, qu'ils aient davantage de comptes à rendre. Un mot de sport maintenant. Hier, lundi, c'était le dernier jour du mercato estival pour les clubs de football européens. Un été mouvementé avec notamment les tractations qui n'ont finalement pas abouti entre le PSG et le FC Barcelone qui souhaitaient faire revenir le Brésilien Neymar Junior dans la capitale catalane. Martin Guez de RFI nous résume les principaux mouvements de joueurs qui ont eu lieu cet été.
Détrônés par les rois d'Angleterre en Coupe d'Europe la saison dernière, ceux d'Espagne ont sorti les grands moyens pour reprendre la couronne. Eden Hazard, Joao Félix, Antoine Griezmann, trois hommes qui valent plus de 100 millions d'euros. Le premier a quitté Chelsea pour le Real Madrid. Le second a dit adieu au Portugal et à Benfica pour animer l'attaque de l'Atlético. Pour remplacer Antoine Griezmann aussi, le champion du monde français a enfin rejoint Barcelone cet été. Le gaucher, qui n'aura pas comme coéquipier Philippe Coutinho, parti au Bayern, ni Neymar, le Brésilien, n'est pas de retour en Catalogne. Dirigeants barcelonais et parisiens n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Et le numéro 10 va devoir se refaire une place dans un effectif qui s'est enrichi en ce dernier jour de mercato. Le gardien costaricien du Real, Keylor Navas, arrive comme numéro 1, tandis qu'Alphonse Areola fait le chemin inverse. Et puis surtout, la venue de l'attaquant argentin Mauro Icardi, en prêt depuis l'Inter. Un grand buteur qui arrive en Ligue 1, mais un autre s'en va, Radamel Falcao quitte Monaco pour Galatasaray. Mais avant cette dernière journée, les défenseurs étaient particulièrement à l'honneur. Harry Maguire est devenu le plus cher de l'histoire, 93 millions pour passer de Leicester à Manchester United, juste devant Mathis De Ligt qui a quitté l'Ajax d'Amsterdam pour la Juventus de Turin, tandis que le Bayern Munich s'est offert les latéraux de l'équipe de France, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.
Et pour finir ce bulletin, on jette un œil à la météo de ce mardi. Grand soleil partout sur la côte Est avec des températures très printanières et ce même à Canberra où il fait 21 degrés. 21 degrés aussi à Melbourne, 22 à Sydney, 24 à Newcastle, 28 à Brisbane. C'est un peu moins inhabituel, mais il fait aussi un temps sublime dans le nord de l'Australie avec 28 degrés à Cairns et 32 à Darwin. En revanche, il y a des nuages dans le ciel d'Adélaïde, il y fait 18 degrés et Perth est aujourd'hui balayé par des averses avec 18 degrés également.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.